Mais avant de commencer, je voudrais citer Claude Lévi-Strauss, qui, dans une salle juste à côté d'ici, il y a 30 ans, en fait, disait la chose suivante. Claude Lévi-Strauss disait « La société parisienne est gloutonne. À peu près tous les 5 ans, on doit mettre quelque chose de nouveau dans sa bouche. » Et l'auteur du cru et du cuit de poursuivre, il y a 5 ans, c'était le structuralisme, maintenant c'est autre chose. Peu de choses semblent avoir changé en 30 ans, parce que cette remarque faite à propos du structuralisme s'appliquerait, à mon avis, sans peine au big data, à cette différence près que le milieu en question n'est pas parisien, il est désormais un petit peu plus global. Un retour sur les 5 dernières années, je pense, nous en convaincra assez facilement. À l'époque, des informaticiens qui évoquaient le potentiel incroyable de ces vastes ensembles de données devenaient audibles. Des experts en marketing nous rappelaient les mines d'or empiriques qui permettaient de mieux connaître les comportements individuels et collectifs. Des physiciens s'emparant des sujets habituellement réservés aux chercheurs en sciences sociales promettaient que ces masses d'informations apporteraient des solutions à des questions restées inexpliquées jusqu'alors. Et même parmi les chercheurs en sciences sociales, les big data étaient, elles aussi, riches de promesses, puisque avec le volume important d'un côté et la granularité extrêmement fine de l'autre, elles offraient la promesse d'incroyables avancées pour nos disciplines. Partout, donc, les déclarations se sont multipliées, qui voyaient dans ce phénomène un gisement quasi inépuisable de richesses, et en quelques années, la révolution des big data s'est répandue comme un feu de prairie. Il me semble que le vent a un petit peu tourné. Ces derniers temps, les critiques se multiplient. Certaines ont trait à la vie privée. Hein, on avait ce côté « data is the new oil ». Maintenant, on a plutôt le problème de la vie privée suite aux révélations d'espionnage par des agences gouvernementales ou à des questions de monétisation de données personnelles par des entreprises privées. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Et puis, il me semble aussi que les critiques viennent de l'intérieur, c'est-à-dire que des praticiens chevronnés, peu suspects de défiance envers le phénomène, ont souligné ces dernières années, et encore plus ces derniers mois, toutes les difficultés de l'usage de ces données. C'est dès 2011, une chercheuse très reconnue, Dana Boyd, en sciences de l'information, qui rappelle que si les big data veulent s'imposer comme un nouveau paradigme et veulent apporter des solutions aux sciences sociales, il faudra qu'elles relèvent 6 défis. Et parmi ces défis, il y a, on les a évoqués aujourd'hui, la qualité des données collectées, il y a les questions d'éthique, il y a la question de la commensurabilité. Donc, je ne reviens pas sur ces questions-là, elles ont été largement évoquées. Plus récemment, Dominique Cardon, qui officie dans le même laboratoire que Jean-Samuel Boscar, Dominique Cardon et plusieurs collègues évoquaient le fait que les données sont toujours finalement construites par une opération, quelque chose qui a pu être dit plusieurs fois aujourd'hui aussi. Et donc, elles doivent toujours être interprétées. Et que pour ce faire, si on poursuit un petit peu, il faut posséder une connaissance un petit peu fine du domaine. Et ce faisant, le fantasme souvent évoqué d'un outil immédiatement transposable, on prendrait les données et puis on aurait des nouvelles connaissances, disparaît. Et du coup, on se retrouve face à des données qui sont potentiellement extrêmement nombreuses, mais encore faut-il pouvoir en faire quelque chose. Ces critiques n'ont rien de nouveau, elles sont même évoquées depuis le début du phénomène, mais elles se sont accrues récemment et elles sont de plus en plus fréquentes. Elles sont aussi, et à mon avis, c'est ça la différence, portées par des personnes qui sont peu suspectes d'ignorance ou de rejet global. En d'autres termes, le scepticisme a priori a fait place à des jugements critiques, cette fois-ci a priori, une fois qu'on a mis les mains dans le cambouis. À tel point que nombreux sont ceux qui, après avoir souligné les avantages des big data, en soulignent maintenant les problèmes. Et il me semble que le feu de prairie est devenu un feu de paille. Certains brûlent même ce qu'ils adoraient il y a peu. Alors avant d'aller plus loin, il faut que je fasse une précision. Je n'ai moi-même pas été exempt de ces tentations. Le premier cours que j'enseignais il y a 3 ans s'intitulait « Big Data et sciences sociales ». On y apprenait à coder, à traiter des ensembles de données, et j'ai été revoir hier. Dès l'introduction, je parlais de révolution que constituent ces gisements incroyables de données. J'évoquais les sources incroyables pour la recherche. Je pourrais multiplier les exemples et l'autocitation. Je pense que ce n'est pas l'objectif. Je ne suis pas venu ici pour faire un exercice d'autocritique publique, ni, et encore moins peut-être, un plaidoyer pour un retour à la case départ, ni même une discussion autour des mérites et des limites des big data. Il me semble en effet urgent de sortir de ce débat pour ou contre les big data qui est devenu improductif. Pour le dire autrement, il me semble que les big data, étendards d'hier, agissent désormais comme un concept écran, au sens où Freud parlait de souvenir écran. Un concept écran qui, parce qu'il polarise, parce qu'il regroupe des termes qui méritent d'être distingués, empêche de faire progresser la réflexion. Et de fait, il me semble juste de dire que, et ce sera le point de mon exposé, les sciences sociales doivent se débarrasser dans une grande majorité des big data, les sciences sociales doivent aller plus loin, et qu'en se débarrassant des big data, on pourra voir que les sciences sociales n'ont pas vraiment besoin des big data. Se débarrasser de ce terme permet de sortir du débat, ça permet aussi et surtout de montrer que les big data ne sont finalement qu'un aspect limité d'un phénomène beaucoup plus vaste, très important, qui est la révolution numérique et qui, elle, transforme nos activités en profondeur. Alors, je présenterai ce thème en trois temps. Je vous parlerai d'abord du débat tel qu'il a eu lieu et j'évoquerai les promesses et les faiblesses des big data. J'évoquerai ensuite cette idée selon laquelle il me semble important d'aller au-delà des big data en essayant de localiser un petit peu les big data par rapport aux différentes activités numériques que peuvent avoir les chercheurs en sciences sociales. Et puis, je reviendrai sur les questions spécifiques ou alors tellement importantes qu'elles en deviennent spécifiques que posent ces nouvelles techniques pour nos disciplines. Mais avant d'aller plus loin, il me semble important de restituer les termes du débat. Alors, je ne vais pas m'y attarder parce qu'on l'a beaucoup évoqué jusqu'à présent, mais quand même, il me semble qu'on peut distinguer hein, pour ces big data qui désignent ces vastes ensembles de données, trois grands enjeux, trois grandes promesses et qui sont aussi trois grandes qui sont transformés parfois en trois grandes faiblesses, empiriques, méthodologiques et théoriques. Du point de vue empirique, la possibilité d'accéder à d'immenses ensembles de données a été accueillie avec enthousiasme par certains chercheurs, et j'en fais évidemment partie. Ces informations inédites, extensives, devaient permettre d'étudier des sujets jamais abordés jusqu'alors, ou de connaître, avec une précision infiniment plus grande, des aspects entiers du comportement humain. Il suffit pour s'en convaincre d'imaginer l'intérêt pour une chercheuse qui travaille sur les mobilités d'une application installée sur votre téléphone. En fonction de votre vitesse et de votre trajet, elle pourrait savoir quel type de transport vous utilisez, quand vous l'utilisez, combien de fois vous l'utilisez, à quelle fréquence. Jean-Samuel vient de donner des exemples sur le web qui sont à peu près similaires, donc je ne m'attarde pas. Elle pourrait aussi savoir avec quelles interconnexions, et le grand avantage de ces données, c'est qu'elles ne se périment pas, ou plutôt elles se périment, mais elles s'actualisent en permanence, puisque l'application s'actualise. Et donc, le fait de vous n'avez pas à remener une grande campagne d'entretien, une grande enquête statistique, les données s'actualisent. Autre exemple sur des effectifs très intéressants, très importants, les informations relatives aux pratiques disponibles, relatives à des sites, des réseaux sociaux. C'est le cas, par exemple, des sites de rencontres. C'est pas forcément l'endroit où on penserait aller les chercher, mais imaginons la chose suivante. Quand vous vous inscrivez, ou si vous vous inscrivez, les personnes qui s'inscrivent remplissent un questionnaire relatif à leurs préférences, du fait du nombre d'inscrits, et puisqu'on dispose d'autres informations sur eux, informations déclaratives, mais informations quand même, on a des informations riches sur leurs pratiques culturelles. Et on peut espérer, en tout cas c'était mon cas quand j'ai vu ces données arriver, avoir la possibilité d'enregistrer rapidement des informations qui seraient riches, aussi riches, voire peut-être même plus riches, que les grandes enquêtes que font régulièrement les instituts nationaux de statistique. Bref, la numérisation du quotidien, qu'elle soit indirecte, hein, via des capteurs RFID, vos pratiques sur Internet, ou alors qu'elle soit directe, via la déclaration des individus, devait apporter des trésors d'informations sur les pratiques. Du point de vue méthodologique, les avancées potentielles sont là aussi indéniables, puisqu'un des enjeux cruciaux dans les sciences sociales, c'est la question de l'inférence et de la représentativité. Les conclusions tirées à partir d'un petit échantillon sont-elles finalement des conclusions solides pour extrapoler et parler sur une population plus générale? Et le fait que je recours au langage des quantitativistes ici ne doit pas tromper. Hein. Nous sommes tous, en sciences sociales, intéressés à cette question, à un moment ou à un autre, de la représentativité. Les historiens ont-ils étudié les bonnes archives? Sont-ils allés au bon endroit? Les sociologues et autres psychologues ont-ils construit le bon échantillon? Les économistes ont-ils considéré toutes les données disponibles? On pourrait dire la même chose des anthropologues. Hein, sont-ils allés visiter la bonne série de gens, la bonne communauté? Dès qu'on cherche à généraliser un tant soit peu, la question de la représentativité de l'échantillon se pose. Dès lors, la promesse des big data était assez impressionnante. Il s'agissait simplement de supprimer ou d'en finir avec cette question lancinante. Parce que dans de nombreux cas, en fait, l'automatisation que permettent ces big data permet de traiter dans le même temps l'échantillon limité et la population mère. J'en prendrai un seul exemple qui fait écho au travail qu'a évoqué David Ponty il y a un instant. Avec un collègue de l'Université de Chicago, j'ai voulu mener une étude sur la réception des sociologues français aux États-Unis. Le problème est que, outre que les concepts sont relativement vagues, que le champ est relativement vaste, c'est quelque chose qui devient très vite important si vous voulez le faire de manière globale. Alors, on a d'abord cherché les articles publiés, les livres publiés, mais il n'y en a pas beaucoup. On a ensuite cherché les traductions, mais il n'y en a pas beaucoup non plus. Et on s'est dit, finalement, un indicateur de la présence, ça peut être la citation. Or là, on a des bases, les bases justement qu'évoquait David Ponti tout à l'heure. Et on voulait travailler de manière assez extensive, on ne voulait pas travailler non plus sur un seul chercheur. Alors on a travaillé sur 200 auteurs, sur 35 journaux et sur une période qui prend 40 ans. On a pris 35 journaux de sociologie. On récupère 32 000 articles, on a 1,2 million de citations. Évidemment, si on voulait faire ça ne serait-ce que pour un seul auteur, pas 200, un seul, ce serait complètement impossible. Ou très très chronophage. Mais avec des techniques d'automatisation, on peut très rapidement accéder en fait à une information qui n'est pas parfaite, qui demande beaucoup de retravail, et j'ai passé longtemps dans les bases à les renettoyer, mais information quand même qui est intéressante. Et donc la promesse des big data était celle-là, parler des populations plutôt que de parler des échantillons, pouvoir automatiser en fait de telle manière à ce qu'on arrive à en finir avec les questions lancinantes des sciences sociales. Côté théorique, enfin, les big data ont suscité de nombreux espoirs. L'abondance de nouvelles données devait permettre de faire progresser notre connaissance, principalement en découvrant des structures jusque-là invisibles, et c'est la revendication principale de courants comme Culturomics, qui dépouille des corpus de textes immenses pour découvrir des lois du comportement humain. Dans la masse de données, en fait, l'idée est de parvenir à trouver des réponses à des questions relatives sur l'évolution des langues, sur l'adoption des modes, Jean-Sébastien vient d'en parler, Jean-Samuel, voire à la prédiction de certaines activités. Bref, tout un tas de questions centrales aux sciences sociales, trouver des terrains d'expérimentation nouveaux et prometteurs. Et pourtant, il faut reconnaître que ces données et ces promesses ont été souvent déçues. Alors, du côté, j'irai très vite ici, mais... du côté des promesses empiriques, il faut se rendre compte que les données sont souvent sales. Si on prend l'exemple du site de rencontre, on se rend compte qu'il y a beaucoup de non-réponses. On a à peine 10% d'informations qui sont remplies, et puis que ces informations sont orientées vers une finalité qui est tout autre. Donc je ne vous raconte pas le nombre de gens qui déclarent aimer le sport, la randonnée, la lecture, probablement beaucoup plus que le souhaiteraient Decathlon et la FNAC. Donc les données sont finalement des données parfois ou souvent assez pauvres. Du point de vue méthodologique, on a fait tout à l'heure, et c'était la remarque que faisaient Éric Dagiral et Sylvain Parasi, on critique parfois les big data pour le côté positiviste, mais une autre critique qui pourrait être faite, c'est celle en fait d'aller chercher l'information là où elle est, plutôt là où elle est disponible, plutôt que d'avoir l'inventivité d'aller chercher des moyens de trouver une réponse à sa question. Et ça fait écho à cette parabole souvent citée de l'ivrogne qui cherche ses clés sous le lampadaire parce qu'il a la lumière, plutôt que d'aller chercher ses clés là où il les a perdues, parabole qui avait été évoquée par un sociologue états-unien il y a plus de 50 ans maintenant. Et donc du côté méthodologique, l'idée c'est qu'on pourrait avoir à la fois une fascination empirique qui pourrait nous amener au mauvais endroit. Et je pense que parmi les travaux qui ont eu lieu jusqu'à présent, on a souvent eu l'occasion de voir ce genre de choses-là. Et puis finalement, du côté théorique, je ne veux pas juger trop vite, parce que moi je suis assez intéressé à ces choses-là, mais il me semble que les grandes découvertes se font toujours attendre, que la découverte des structures cachées demande bien plus que de vastes ensembles de données et des outils transposables. Les personnes qui ont décodé le génome ADN n'étaient pas des personnes qui avaient aucune compétence en génétique, c'est des personnes qui au contraire en avaient beaucoup, et que donc il va falloir se plonger dans les données, sans quoi on risque de ne pas voir les petites variations qui font qu'on peut découvrir une nouvelle piste. Et donc, plutôt que des grands outils transposables, il faut souvent mettre les mains dans le cambouis. Voilà. Alors, les limites sont importantes, et je n'évoque même pas le fait que les nombres d'objets ne sont pas justiciables d'analyse quantifiée, ou que ces données, si elles existent, posent des questions épineuses relatives à la vie privée. Bref, en l'état, il me semble difficile de trancher dans le débat. Je ne suis ni pour ni contre, je pense que c'est difficile de trancher. Et c'est la raison pour laquelle ce débat va continuer de se poser et risque de continuer pendant quelques années encore. Mais en fait, il me semble que c'est parce que la question est mal posée et c'est parce qu'on englobe derrière Big Data beaucoup de choses. Et c'est ce que je voudrais essayer de vous montrer dans les minutes qui suivent. en montrant que si les sciences sociales veulent tirer profit des opportunités qui se présentent à elles, elles doivent aller au-delà des big data. Au-delà des big data, ça veut dire rentrer dans ce qu'on appelle habituellement les big data, pour mieux distinguer différents ensembles, et ça veut dire aussi ne pas s'y limiter. Et je vais tenter une petite typologie qui a sûrement ses défauts, et je la mets à la discussion aujourd'hui, parce qu'il me semble que quand on parle de big data, on parle en fait de plusieurs choses que je vais tenter de distinguer. La première, c'est celle dont par exemple Jean-Samuel vient de parler, c'est les données de l'Internet. Hein, c'est les informations auxquelles on accède via le web, hein, en les remplissant parfois sur le web. Elles peuvent avoir trait à des pratiques en ligne, les blogs, les forums, les traces de déplacement, ou elles peuvent être le reflet plus ou moins exact de pratiques offline. Parmi elles, il y aura des big data, mais de très nombreuses données de l'Internet sont finalement limitées en termes de quantité, quoique très riches sur le plan de ce qu'on peut en dire. Les chercheurs qui font des ethnographies en ligne, ceux qui collectent manuellement des informations sur des personnes ou des activités via des réseaux sociaux, le savent très bien. Second type de données, qui pourrait être, c'est pas très bien sorti, qui pourrait être rangées sous ce label de big data, mais qui méritent d'être distinguées, les données produites par des organisations, des entreprises ou des associations pour leur bon fonctionnement. On les a évoquées ce matin, elles recensent toutes ces associations, ces organisations, leurs membres, les activités de ces derniers, leurs ventes, leurs commandes. Et la numérisation du quotidien fait qu'elles sont désormais disponibles en masse, qu'elles peuvent intéresser les chercheurs en sciences sociales aussi. Hein. Les économistes ont largement recours et depuis longtemps à des données sur la production des marchés et sur qui sont enregistrées, stockées et qui, ce faisant, deviennent une source extrêmement riche. Mais elles ne se retrouvent que rarement sur le web, ces données d'organisation. D'où le décalage entre les cercles. Je dis, on les retrouve parfois sur le web, si vous avez Edward Snowden qui travaille chez vous, mais en temps normal, ce n'est pas le cas. À un endroit de cette frontière, et je soumets ça à Jérôme Denis et Samuel Goeta, pardon, je voulais mettre l'open data, mais ça vend tout. Alors attendez, je reviendrai. À un endroit de cette frontière, on aurait peut-être l'open data, j'y reviendrai. Troisième type de données qui sont rangées, à mon avis, parfois un peu vite sous le label de big data, c'est toutes les sources qui sont non numériques nativement, mais qui sont converties. Et je voudrais maintenant vous parler des archives. Les archives, on peut les recopier patiemment et les rendre consultables via un ordinateur. Ça peut être aussi le cas de documents qu'on scanne et qui, ensuite, peuvent devenir des données numériques. Hein, on fait reconnaître automatiquement des textes, on les transforme en des statuts, en des logiciels, via des logiciels, en des données lisibles, et elles sont susceptibles d'analyse. Hein. Les documents d'archives OCRisés, du nom de la procédure, sont des documents numérisés qui peuvent appartenir à des organisations ou ne pas appartenir à des organisations. Un petit bout peut se retrouver sur Internet, mais elles sont un petit peu différentes. Il faudrait aussi ajouter les questionnaires, hein, auto-administrés ou pas, avec lesquels les sociologues travaillent régulièrement, et en particulier prendre en compte tout le fait que parfois sur Internet, les gens répondent à des questionnaires, ou parfois pas sur Internet, les gens répondent à des questionnaires aussi. C'est par exemple le cas d'une enquête qui a été faite par l'INED récemment, où on demandait aux gens de répondre sur les relations avec leur conjoint, l'enquête EPIC, et dans l'enquête EPIC, on tourne des fois l'ordinateur vers la personne parce qu'on ne veut pas lui poser la question de savoir s'il a trompé sa femme ou si sa femme l'a trompé. Par contre, la personne doit répondre. Donc les gens saisissent. Il y a beaucoup de cas aussi où on donne aux gens un ordinateur et on leur demande de répondre. Ça passe des fois sur Internet, ça ne passe des fois pas sur Internet. Alors il manque deux items ici qui sont probablement les plus importants pour mon propos, les big data et les données numériques. Une fois qu'on a établi ce tableau, il me semble qu'on peut positionner rapidement et aisément les big data, hein, sans rentrer dans des débats ontologiques sur ce que sont ces vastes données. On pourrait décider d'en réserver l'usage pour les cas où la quantité et la diversité dépassent très largement les standards habituels de nos disciplines. Après tout, pourquoi serait-elle big si elles ne sont pas plus big que d'habitude ? Mais quand on sait que les articles de sciences sociales s'appuient parfois sur des populations de 10 000 personnes avec 400 variables, ce seuil est très élevé et doit beaucoup d'études, regroupées sous le label de big data n'en relève pas vraiment. Hein. Par exemple, si vous faites une étude sur les déserts médicaux en France, que vous aspirez les données de la CNAM et que vous prenez les 200 000 médecins, vous avez 200 000 médecins que vous géolocalisez par commune, ça fait 200 000 fois une information, c'est 200 000 informations. C'est finalement pas tant de données que ça quand on compare, par exemple, à une enquête classique de l'INSEE. Ainsi présenté, il me semble que les sciences sociales n'ont pas complètement besoin des big data. Hein. C'est un coin très intéressant, très important, et personnellement que je trouve extrêmement stimulant en termes de potentialité de recherche. Mais les sciences sociales ne font pas que travailler avec des big data. Par contre, ce qu'elles font, c'est qu'elles travaillent avec, mon autre ensemble, des données numériques. C'est peut-être une évidence pour vous, hein, mais ces données numériques, ce sont ces données qu'on consulte via un ordinateur, pas seulement via Internet. Hein, je pense que la déconnexion est importante. Le terme numérique, mais la même remarque vaudrait pour digital, hein, l'homologue anglo-saxon du terme, vient du fait qu'elles sont encodées avec des chiffres, des 1 et des 0 en langage machine, et qu'elles sont ensuite transformées en lettres, en nombres, en sons, en images, afin d'être utilisées. Ainsi présentées, hein, il me semble que les données numériques, dont j'espère avoir montré qu'elles sont un nom plus précis, plus englobant que les big data, sont justiciables de formes d'analyse relativement classiques. Je ne vais pas m'attarder sur ce point, parce que c'est des choses qui ont déjà été dites, mais une fois qu'on pense cette question des big data et ce débat autour des big data comme un débat autour des données, en fait. Il y a beaucoup de questions qu'on se posait qui deviennent des questions relativement banales. Parce que qu'est-ce qu'on reproche en général à ces données? On leur reproche d'avoir été, pour certaines, d'être pas suffisantes à mener une enquête. Bon, ça étonnera pas beaucoup les chercheurs en sciences sociales qui ont l'habitude de multiplier les sources pour arriver à faire un produit fini qui est une enquête. On leur reproche d'être utilisées à des fins autres, d'être produites à des fins autres que celles de l'enquête. Ça étonnera assez peu, finalement, les historiens qui travaillent sur des archives administratives de l'État, des entreprises, les économistes qui travaillent sur les données fiscales, les sociologues. Donc il n'y a rien de nouveau là-dedans. Tous les discours aussi relatifs aux transformations radicales, aux révolutions, en fait, que donneraient lieu ces big data, sont, à mon avis, à modérer. On nous parle, par exemple, de traces qui changeraient radicalement la perspective qu'on doit avoir sur ces données. Je crois que c'est Jean-Sébastien Vert et Franck Cochois ce matin qui citaient l'article de Ginsberg dans leur PowerPoint qui s'appelle « Traces » justement et qui montrait comment les historiens peuvent suivre ces traces de personnes, parfois des traces anonymes. Parce qu'on nous dit aussi que les big data sont hyper personnels, mais que font les micro-historiens depuis une quarantaine d'années sinon suivre en pratique des personnes qui sont parfois des anonymes qu'ils personnalisent. Bref, il me semble que réaborder ainsi la question des big data est finalement une question autour des données, et les données, les chercheurs en sciences sociales ont depuis longtemps l'habitude de s'en servir et de les critiquer et de les utiliser. Par contre, il me semble que la question qui se trouve derrière les big data, et plus encore derrière les données numériques, pose des nouvelles questions et des nouvelles frontières pour la recherche. Il me semble particulier que deux méritent d'être posés. Je pourrais en développer plus, mais les enjeux pour nous, à mon avis, sont les suivants. Le premier, à mon avis, c'est qu'il va falloir développer, et à mon avis, assez rapidement, de nouvelles compétences. La multiplication des données numériques requiert que les chercheurs sachent, sinon traiter ces données, à minima, comprendre leur production. Et donc, encore une fois, toutes les personnes ce matin qui vous ont montré combien il était important de rentrer dans les jeux de données, leur fabrique, à mon avis, mettent en œuvre cette idée-là. Par ailleurs, la barrière technique qui peut paraître difficile est, à mon avis, relativement limitée. Hein. En quelques heures dans mes cours, j'enseigne à mes étudiants comment est-ce qu'on écrit une partie du web. Pas tout le web, mais comment on écrit une partie du web. Avec quelques heures de plus, peut-être 10, j'apprends à écrire des petits scripts qui permettent d'aller chercher les informations, comme Jean-Samuel Boscard évoquait tout à l'heure, qui permettent de collecter des centaines de milliers d'informations. Il ne faut pas croire que cette compétence, qui n'est rien d'autre qu'une compétence finalement assez basique en informatique, ne servira que ceux qui travaillent sur Internet. Hein, un économiste qui travaille sur des données fiscales peut avoir à nettoyer la base que lui fournit l'administration. Un sociologue qui travaille sur des données de pratiques culturelles peut avoir à nettoyer le dump de la base que lui a fait un géant de l'Internet pour travailler. Supprimer des scories, repérer des doublons, des erreurs de codage, harmoniser. Une historienne peut avoir à transformer le format de sa base qu'elle a compilée intégralement pour la passer dans un nouveau logiciel. Ce qui pourrait lui prendre des journées, en fait, peut se faire en quelques lignes. Il me semble donc urgent, en fait, d'apprendre à faire et à automatiser tout un tas de choses que, à l'heure actuelle, on fait trop souvent à la main ou qu'on ne fait pas. De manière générale, je pense qu'il faut se dire qu'à chaque fois que le chercheur ou la chercheuse a l'impression de faire un travail de robot, il faut qu'elle se dise qu'un robot pourrait sûrement le faire mieux qu'elle. Et donc, à mon avis, il est urgent hein, de réaliser que nous travaillons tous de plus en plus avec des ordinateurs et d'en tirer les conséquences. Le grand partage d'hier qui, en sciences sociales, pas dans toutes, mais quand même, opposait les qualitativistes et les quantitativistes, à mon avis, est en train de céder le pas à mesure que se développe une troisième compétence, la compétence informatique. Et c'est ce qu'ont très bien compris les personnes qui travaillent au Media Lab de Sciences Po, dont Dominique Boulier, que vous allez voir dans quelques instants, puisqu'ils travaillent avec des données du web sans toujours leur imposer des traitements statistiques particulièrement avancés. Parfois oui, mais parfois non. La collecte, le nettoyage, le formatage peuvent suffire, avec une bonne visualisation, à offrir une présentation extrêmement riche des données et faire émerger des vérités ou des éléments intéressants sans forcément passer par les statistiques. Bref, à côté du quali et du quanti, si vous me passez l'expression, émerge à mon avis une troisième compétence, une compétence plutôt ordi. Je pourrais aussi évoquer les méthodes qui changent en fonction des types de données et de leurs objets. Les statistiques doivent s'adapter. Une des grandes questions à l'heure actuelle en statistique, c'est la question des tests. Quel type de test fait-on quand on a un échantillon dont on ne connaît pas du tout la population mère? C'est très compliqué. Et inversement, quel type de test fait-on quand on a un échantillon qui est égal à la population mère? Parce qu'il faut encore faire des tests et ils n'ont pas été conçus pour ça. C'est un débat actuel au sein de la profession statistique. L'autre frontière, à mon avis, a trait à quelque chose qui est un petit peu les deux versants d'une même pièce. Ça a trait à l'accès aux données et à son envers immédiat, la protection des personnes. Car si on trouve de plus en plus d'informations, elles ne sont pas toutes disponibles, que ce soit pour des raisons légales ou pour des raisons déontologiques. Les données numériques rencontrent parfois frontalement deux types de droits. Celui des bases de données, restrictif et très clairement encadré par la loi. Imaginons par exemple, car c'est interdit, que dans le cadre d'une recherche en sociologie de la conjugalité, une sociologue veuille consulter et collecter quelques informations sur un site de rencontre. C'est techniquement tout à fait réalisable, et elle pourrait en une journée récupérer des dizaines de milliers de profils, mais c'est strictement illégal puisque l'article 112.3 du Code de la propriété intellectuelle lui fait encourir jusqu'à 500 000 euros d'amende, plus dommages et intérêts, et 5 ans de prison. Bien sûr, la solution pour accéder à ces données, ça pourrait être d'aller contacter le site de rencontre et d'aller leur demander, en échange éventuellement d'un partenariat, d'avoir accédé à sa base de données. Et il est tout à fait possible que certaines personnes fassent ça, mais il faudra donc négocier un contrat, s'engager à faire une restitution, parfois communiquer au nom de la société, ou en tout cas il y aura une petite tension à ce niveau-là. En d'autres termes, il faudrait mettre en place une procédure longue, chronophage, et pas forcément fructueuse, parfois pour obtenir une seule donnée. Est-ce que ça en vaut le coup? C'est pas certain, surtout que la valeur monétaire pour l'entreprise n'est pas du tout certaine de la donnée que cherche le sociologue. Souvent, les entreprises cherchent à protéger des données qui ne sont pas celles qui intéressent les chercheurs. Un enjeu légal a trait à la vie privée aussi. Ce n'est pas simplement le droit d'auteur et aux libertés. On en a un petit peu parlé ce matin avec l'exposé de Bernard Harcourt. Mais dans de nombreux pays, ces droits sont encadrés par des agences indépendantes. En France, la CNIL se charge de leur application, bon an, mal an, et en fonction de leurs moyens. La règle de base qu'impose la CNIL, un fichier ne peut contenir des informations qui permettraient d'identifier une personne. D'autres éléments interviennent dans la collecte des données. Le fait que l'information soit collectée soit pertinente pour l'étude, le fait qu'il y ait un caractère proportionnel des données collectées par rapport à l'étude, la protection des données conservées, l'information des données conservées ou la durée de conservation. De ce point de vue-là, la France est beaucoup plus restrictive que beaucoup d'autres pays et on pourrait s'en féliciter quand on sait le lobbying intense que font tout un tas d'entreprises, d'assurance santé, par exemple, pour avoir le droit de traiter les données individuelles, soi-disant pour mieux vous assurer, et souvent en réalité, pour ne pas avoir à vous assurer, puisque vous êtes un sujet considéré comme un risque. Donc, cette protection, à mon avis, elle est vraiment essentielle. Et en même temps, elle pose des problèmes insolubles pour la recherche. Imaginons cette fois une sociologue qui travaille sur la densité médicale dans plusieurs départements. Elle pourrait se réjouir de l'existence d'une base de données disponible sur le site de l'assurance maladie qui recense tous les médecins, leurs spécialités, les tarifs, les honoraires qu'ils pratiquent et leur adresse. Elle n'a finalement besoin que de cette dernière information, l'adresse, pour savoir si oui ou non il y a des médecins dans telle ou telle commune et à tel endroit. Et elle pourrait assez rapidement le faire. Ce n'est pas très compliqué de faire un petit script qui va aller chercher ces informations. Mais elle ne le peut pas. Elle ne le peut pas. Pourquoi ? Car avec un nom et une adresse, la personne est immédiatement identifiable. Et donc, selon les termes de la CNIL, si elle ne leur envoie pas à chacun, je vous rappelle qu'il y en a 200 000, hein, si elle n'envoie pas à chacun un courrier, elle est passible d'une peine de 1 500 euros d'amende, 3 000 euros en cas de récidive, et ce qui contrevient à l'article, parce qu'elle contrevient à l'article 131.13 du Code pénal. Pourtant, c'est intéressant de regarder ces données. Là, je l'avais fait pour deux municipalités, le 16e arrondissement de Paris et Saint-Denis, et vous voyez que dans un cas, on voit apparaître carrément les frontières de l'arrondissement. Dans l'autre cas, on en a beaucoup moins. Message pour la CNIL, j'ai fait un script qui était relativement protecteur et qui ne stockait pas les informations. Voilà, et pour les autres règles, pour salutaires qu'elles soient, elles sont en pratique très, très contraignantes et aussi déplacées dans le cadre de la recherche. Le principe de pertinence de la collecte peut paraître de bon sens, mais c'est nier le fait que la recherche procède par une logique de la découverte, au moins autant qu'une logique de la preuve. Logique qui fait que le chercheur ne passe pas son temps à tester des hypothèses qu'il avait clairement énoncées auparavant sur un jeu de données qui existe devant lui, mais que le chercheur passe son temps à force d'essais et d'erreurs à se déplacer, essayer, tenter de nouvelles choses. Et donc, ne collecter que des données définies comme pertinentes ex ante, c'est s'interdire ce genre de pratique. Et en même temps, il est essentiel de protéger les enquêtés, puisque il n'y a rien de très nouveau, les chercheurs en sciences sociales le savent bien, mais l'enjeu se pose avec une ampleur d'autant plus grande du fait qu'on peut collecter des centaines d'informations sur les pratiques de milliers d'individus, et parfois avec une granularité bien plus fine que ne le ferait, le carnet de terrain d'un anthropologue. Il faut donc mettre en place des dispositifs de protection des données efficaces, surtout à l'heure où se multiplient les copies, que ce soit sur les disques, sur les ordinateurs portables, qui peuvent être volés, ou dans le cloud. Et il me semble que l'anonymat et la protection individuelle ne concernent pas que Google ou que la NSA, ils nous concernent nous aussi, dans la relation qu'on peut avoir à nos enquêtés. On est donc dans une situation où on a le droit d'enquêter, que je revendique assez clairement d'un côté, et la protection des enquêtés de l'autre, qui sont deux aspects qui se posent à nous, à mon avis, de manière extrêmement pressante du fait de la diffusion de ces données numériques. Et de ce point de vue, il me semble évident qu'il faut collectivement s'organiser pour faire évoluer la doctrine légale et négocier une véritable exception de recherche. On pourrait évoquer d'autres choses, mais je préfère conclure, en fait. Je dois reconnaître en conclusion que finalement, je vous ai peu parlé des big data. C'est à la fois parce que je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui a été dit aujourd'hui, et puis c'est aussi parce qu'il me semble que l'enjeu pour les sciences sociales, mais aussi pour les entreprises, qui était évoqué dans le titre de cette conférence, n'est pas vraiment là. Les big data ne sont qu'un élément très intéressant, mais qu'un élément d'un phénomène qui transforme nos métiers, l'avalanche de données numériques, qu'elles soient big ou pas. Et si les big data posent des questions particulières, des questions de stockage, des questions de traitement, la plupart se posent aussi avec les autres. La plupart des questions qui se posent aux big data. Donc plutôt qu'une révolution des big data, nous sommes au cœur, à mon avis, d'une révolution des données numériques qui n'a pas les contours qu'on veut bien lui donner, qui n'aura probablement pas les effets qu'on lui attribue, mais elle est lourde de conséquences pour nos disciplines. Elle est lourde de conséquences en interne, parce que des équilibres vont probablement se modifier. La disponibilité des données risque d'amener des informations extrêmement riches dans tous les domaines, mais aussi une certaine quantophrénie et un fétichisme de la donnée. Et puis, dans nos relations externes avec d'autres métiers, la révolution numérique risque de changer des choses. On voit bien que l'arrivée de données numériques transforme en profondeur des métiers dont certains s'emparent de l'analyse du monde social que nous revendiquions avec plus ou moins de succès. La data scientist, évoquée par Sylvain et Eric tout à l'heure, data journaliste, évoquée par eux aussi, informaticien, la liste est longue en fait des personnes qui viennent proposer une lecture du monde social d'hier à aujourd'hui. Il ne s'agit pas de le déplorer, il ne s'agit pas non plus de le célébrer, il faudra juger tout cela à ses fruits, mais le changement, à mon avis, est bien présent et il nous appartient d'en orienter le cours. Je vous remercie.